C'est un privilège d'être ensemble pour beaucoup de raisons. Mais pour une, c'est qu'en fait, si on est là, chacune, chacun, c'est pour lui. Nous sommes aussi venus les uns vers les autres. Donc, bon, évidemment, Anne-Marie et moi, qui vivons près d'Alès dans le Gard, on connaissait personne quasiment, à part Daniel. Et bien sûr, Rebecca, Joachim. Mais rien qu'à entendre les prières, on se dit, on se connaît. On est pareil. Et quand on dit Amen aux prières, ça inclut ça, hein. On dit que ce qui vient d'être dit dans la prière est vrai. Je propose de lire dans Matthieu 11, les versets 25 à 30. Donc les 28 à 30 ont été déjà lus, 28, 29, 30. Simplement de lire ensemble le paragraphe. On va le lire et puis on va voir. Avec la grâce de Dieu, nous plonger dans le texte et en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Les derniers versets, donc 28, 29, 30, sont très connus, souvent lus. Et ils ont été lus ce matin. Tellement bénissant. Et ce qui a été chanté en dernier, là, en dit long, vraiment, sur le contenu, là, de 28, 29, 30, on va développer un petit peu. Les deux premiers versets, 25-26, sont assez connus aussi. On en parle, on le cite dans les prières, dans les exhortations, les prédications, dans les livres. Ils sont relevés. Et puis il y a le verset du milieu, alors pas mécaniquement le milieu, hein, mais le verset 27. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Cela, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, ils sont cette parole de Jésus est le cœur de tout le paragraphe, de toute la Bible, la raison d'être de la venue de Jésus, la raison d'être de notre création. Et donc, il est dommage, ou il serait dommage, de séparer les trois parties, si vous voulez, de ce paragraphe, et de dire, bon, à la fin, il parle, venez à moi pour vous aurez du repos, ça c'est une chose. Au début, il dit, Père, je te loue, je te confesse littéralement. Je dis que c'est toi et qui tu es, de ce que tu as caché et révélé. Donc là, ça c'est grandiose, mais c'est une autre chose que la fin et le repos. Et puis, mais au milieu, ben, c'est forcément autre chose. D'ailleurs, on ne le lit jamais, on n'en parle jamais. Je force un peu le trait, mais voilà. En écoutant le chant, on aura compris que le repos dont il est question, ce n'est pas simplement le repos après une journée éreintante ou après un jogging de 2h30. C'est pas celui-là. Et la fatigue dont il est parlé, dans verset, tout ce qui est fatigué, changé littéralement, qui peinait sous un fardeau, qui peinait. Que la peine, la fatigue, n'est pas la fatigue où on n'a plus de force physique, etc. Même si là aussi le Seigneur restaure, renouvelle et aide. Mais c'était super beau les paroles du chant. Hein. C'est imprégné de la pensée biblique. Et ça va aussi au cœur des choses. Et alors, quelle fatigue ? C'est quoi qui fatigue l'homme ? Et pour nous aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qui fatigue le chrétien ? Qu'est-ce qui fatigue ? Qu'est-ce qui me fatigue ? Hormis la fatigue physique, nerveuse. Eh bien, les versets 28, 29, 30, « Venez à moi, je vous donnerai du repos, vous qui peinez, qui fatiguez. » Ils ne se comprennent correctement, profondément, qu'avec les versets 25, 26, et puis on va le voir particulièrement le verset 27. Alors, qu'est-ce qui fatigue ? La réponse, elle est impliquée, c'est implicite, dans les versets 25, 26, où Jésus dit, il y aura quelques précisions à apporter, je te confesse Père de ce que tu as caché ces choses, littéralement cela, tu as caché ça. Alors c'est quoi ça? Mais il faut lire un peu plus haut. Et là Jésus dit, il fait des reproches aux villes qui ont vu ses œuvres, entendu ses paroles, vu ses miracles et qui n'ont pas cru. Dans l'évangile de Luc, le texte parallèle, finalement c'est pas obligé de le projeter celui-là, le texte parallèle dans Luc, c'est juste après l'envoi des 70. Et ils reviennent tout joyeux, ils ont prêché le règne de Dieu, ils ont aussi guéri des gens. Voilà. Et puis ils reviennent et disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Si on va, si on dit, si c'est en ton nom, ce qui veut dire que c'est toi qui nous envoies. Hein. Si vous allez en mon nom à ma banque, il ne suffit pas de dire bonjour, je m'appelle Jean Hay. Hein. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait le... Voilà. OK. Donc, en ton nom, et Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Mais, ou en tout cas, pas premièrement là pour ça. Mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et donc, ces choses, cela, si on veut récapituler, c'est qui est Jésus et quel salut il apporte. En gros. Et il faut accepter, en lisant la suite du verset 25, on l'a là, le 25 ? Il faut accepter d'être étonné, d'être gêné même, d'être perturbé. Jésus, alors Luc précise, dans Luc 10, il est précisé que Jésus est très saute de joie par le Saint-Esprit. Donc quand il dit je te loue, je te confesse, il y est pleinement. Hein. Et il loue Dieu Et pour, d'avoir fait quoi? Alors, normalement, Jésus loue Dieu d'avoir fait quoi? Ben, on s'attendrait à lire ben, déjà de m'avoir envoyé, d'avoir été patient, etc., etc. Oui, 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 la Bible dit 1000 fois, et si ça ne suffit pas, elle le redira 10 000 fois. Oui, mais ici, je te loue de ce que tu as caché. Et de ce que tu as révélé. Et la distinction entre caché et révélé, la seule en tout cas que Jésus prononce et que nous avons dans le texte, c'est sage, intelligent, d'une part, à cela Dieu cache. Il cache qui est Jésus et quel salut Jésus donne. Vous allez me dire, quoi? Moi je viens à l'église, on me prêche que Dieu cache le salut. C'est moi qui repars en fait, hein, à midi, donc restez, ne partez pas. Revenez dimanche prochain. Est-ce que le Seigneur, il est contre que quelqu'un soit intelligent? Est-ce que si vous êtes chercheur et professeur d'université, Dieu, il vous est hostile? Non, c'est pas ça. Quel est le problème? Mais c'est le problème avec Adam et Ève. Hein. Au départ, ils sont comme des enfants, pleinement dépendants de Dieu. Tout est donné, ils ont tout reçu, il n'y a aucun problème, il n'y a même pas le mal. Il n'y a même pas la notion de liberté et pas liberté, puisqu'il n'y a que Dieu et eux. C'est des questions qui se posent après, voyez. Et puis, la tentation consiste en quoi? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, ou voire comme Dieu, et vous connaîtrez. Autrement dit, vous serez autonome. Et donc, la sagesse ici, et la sagesse, intelligence que Jésus pointe et du coup et en fait dénonce ici, c'est la suffisance. Je compte sur moi-même, je gère, je contrôle et je vais y arriver. Alors déjà dans la vie tout court, c'est épuisant de montrer tout le temps, faire comprendre à tout le monde que je suis bon, que je suis intelligent, que je suis, voilà. Et avec le Seigneur, c'est épuisant. Si ma vie chrétienne consiste à démontrer au Seigneur à quel point je suis fidèle et bon, parce que je serai toujours en deçà. Et bon, Anne-Marie et moi, ça, alors elle, ça fait encore plus que moi, mais ça fait... Moi, ça fait déjà pas mal plus de 50 ans que j'ai été sauvé et je suis en deçà. Et alors, c'est quoi le repos? C'est que je viens à lui et c'est lui qui m'enseigne. Et non pas, ça y est, j'ai compris, Seigneur, ce que tu veux, j'ai compris. Il ne faut pas faire le mal, il faut aimer Dieu, il faut aimer les frères et sœurs, il faut évangéliser, il faut lire la Bible. C'est bon, j'ai compris, merci. Reste dans ta gloire, continue, et moi je vais y aller. Je vais m'atteler à la tâche. Alors, j'exagère un peu. Quoique, tu as caché et tu as révélé. Le mot révélé est très très fort dans la Bible. Il n'y a que Dieu qui révèle. Et si quelque chose est révélé, c'est que Dieu a parlé, a montré, a éclairé. Hein. Révélé aux enfants, le terme semble-t-il implique petits-enfants. Et alors pourquoi pas? Parce qu'ils sont neuneux, on dit ça ici. Voilà, mais c'est pas qu'ils soient stupides ou qu'ils ont encore pas beaucoup appris de choses. C'est parce que pour l'enfant, la dépendance des parents n'est pas un problème. Le problème arrive à l'adolescence. On va être indépendant. Ok. Je relève, je ne peux pas tout expliquer. Je ne veux pas dire que je n'ai pas le temps de tout expliquer, je ne suis pas de taille à tout expliquer. Je relève simplement que Jésus n'a pas dit, et en tant que disciple de Jésus, nous devons l'admettre, Jésus n'a pas dit ces choses, hein, qui est Christ et quel salut il apporte, ces choses échappent aux sages et aux intelligents. ou les intelligents négligent ces choses. Jésus dit à son père, il ne le dit pas aux disciples, hein, mais il se trouve que par l'esprit, il a voulu que ce soit écrit et qu'on l'entende. Il dit, tu as caché. Et de même, Jésus ne dit pas les petits-enfants, autrement dit les humbles, ceux qui sont heureux de dépendre de Dieu, les petits-enfants découvrent ces choses. Et dans un sens, c'est pas par hasard que le Seigneur dit si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il dit bien que le Père cache et que le Père révèle. Alors, la distinction entre l'orgueil d'être autonome, d'une part, le bonheur de dépendre de Dieu, d'autre part, la distinction, on la comprend assez bien, elle nous aide beaucoup. Et elle nous aide particulièrement à comprendre que là est le repos. Le repos est pour les seconds. Je reviens rapidement au verset 28, 29, 30 et après on va aller sur le 27. Toutes les... venez à moi, vous qui peinez, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, littéralement, apprenez de moi. C'est la définition même du disciple. Le mot disciple, à l'époque, était un mot du vocabulaire courant, pas spécifique aux religieux, aux spirituels. C'était l'apprenti. Donc, si vous voulez, il y avait des disciples charpentiers, des disciples boulangers, etc. Et des tanneurs, etc. Donc, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug, littéralement, est bon. Et mon fardeau, léger. Alors, il y a une antinomie volontaire, là. La définition du fardeau, c'est que ça pèse. Jésus dit, le mien, il est léger. Et pourquoi ? Mais parce que c'est le mien. Et le joug, pourquoi il est bon ? Parce que c'est mon, enfin mon, pas moi Jean, hein, Jésus. Le joug, c'est la pièce de bois qui relie deux animaux de trait. Et le joug, quand Jésus dit « Prenez mon joug sur vous », ça veut dire « Je me suis attaché à vous et laissez-vous attacher à moi. » Moi, mon joug. Et si c'est mon joug, mais ça va tirer la charrette ou la charrue correctement. Et le petit veau foufou, s'il est enflé d'orgueil comme un adolescent en crise, eh bien, il veut prendre le double joug tout seul et il va aller dans tous les sens, il va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, mon joug est bon. Mon joug est bon. Donc, nous comprenons que l'autonome, le mot veut dire en français, et l'idée biblique est la même, le mot autonome signifie... nomos, c'est la loi. Autonome qui détermine sa propre loi. Alors où est Dieu si c'est moi qui détermine? Et même si c'est Dieu, ce que Dieu a dit, par exemple, Jésus, n'avez-vous pas lu 10 fois au moins dans les évangiles, Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Qu'est-ce que tu y lis? Qui lis-tu? Etc. Eh bien, même si ce que je veux faire, c'est lui qui l'a dit, mais si j'ambitionne, ou simplement je me trompe et je veux le réaliser. Moi, c'est bon, j'ai compris. Moi, vous allez voir, je vais vous la lire, la Bible. Hein, et puis tous les jours. Hein, et puis, voilà. Qui s'épuise? L'autonome. Et qui a du repos? Qui trouve du repos? Le dépendant. Celui qui dépend de lui. Mais qui est heureux de ça. Heureux de dépendre. Heureux de dépendre. Alors, verset 27. Ah non, un petit mot sur le 26 quand même. Je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Littéralement, je te loue de ce que ainsi, c'est-à-dire en cachant et en révélant, il y a eu devant toi, Père, bon plaisir. Bon plaisir. Et là, on rentre dans l'explication centrale et qui explique toute la Bible. Le plaisir de Dieu, c'est de révéler son Fils. Mais en amont de ça, le plaisir de Dieu, c'est la personne même. Le plaisir de Dieu par rapport à nous, à sa créature, c'est de révéler son Fils. Mais le plaisir de Dieu en amont, avant la fondation du monde, avant la création d'Adam et Ève, et en l'occurrence avant ma naissance, etc., c'est la personne de son Fils. Hein, Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Mon Fils, le bien-aimé, au singulier, le bien-aimé, en qui j'ai tout mon plaisir, et le mot a le double sens, plaisir-affection. C'est-à-dire, mon plaisir est de l'aimer, et cet amour est mon plaisir, et il est mon plaisir, et voilà. Bon plaisir. Et rappelons-nous que le mot dessein, personnellement, je déplore un peu que... qu'on le réduise à l'idée de plan, le plan de Dieu. Alors oui, l'idée elle y est aussi, parce que Dieu c'est lui qui décide et qui met en route et qui met l'ordre qu'il veut. Et par exemple, il envoie son Fils au temps marqué. Mais c'est beaucoup, le dessein de Dieu c'est beaucoup plus qu'un plan, comme un chef d'équipe ou un architecte ou un n'importe, ou même un jardinier. Voilà, plaisir. Alors maintenant, verset 27. Tout m'a été remis par mon Père. Est-ce que là, on peut afficher Jean 3, 35, 35, 36 ? Donc c'est Jean-Baptiste qui dit, ça y est ? Oui. Le Père aime le Fils. Et il l'a tout remis dans sa main. Ça, le Père aime le Fils, c'est le sens de tout. Et le verset le suivant, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc n'oublions pas, lent à la colère et riche en bonté, hein, surtout pas. Simplement, retenons qu'au niveau de nos expériences, au niveau horizontal, si vous voulez, sur cette terre, le problème des uns, c'est de n'avoir pas cru. Et d'autres, le bonheur des autres, c'est d'avoir cru. Mais que fondamentalement, cette phrase-là, qu'on vient de lire, son sens profond, c'est le verset précédent. Donc est-ce qu'on peut revenir au 35 ? Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Autrement dit, si Dieu n'avait pas créé l'être humain, ça c'est plein, c'est complet, il n'y manque rien, c'est la béatitude céleste parfaite. Je reviens à Matthieu 11, le verset 27. Tout m'a été remis par mon Père. Donc là, si vous voulez, le Seigneur dit, formule, confirme, si vous voulez, ce que Jean-Baptiste a annoncé. Tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et si vous permettez les derniers mots, on les lira tout à l'heure. Et celui à qui... Si vous voulez, c'est seulement la dernière ligne... et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est seulement ici que dans ce verset 27, Jésus parle de nous. Mais la clé et le cœur des choses n'est pas en nous. Et il dit, et donc là il parle aux disciples, « Tout m'a été remis par mon Père ». Jusque-là, il célèbre et confesse son Père, il le loue. Là, il parle aux disciples. Et il leur dit une chose, sincèrement, on pourrait dire, Seigneur, en quoi ce que tu dis là, ça nous aide ? On a cru en toi, on te suit. On te suit. On commence à te connaître. En partie. Et puis là, tu parles et tu dis, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. En quoi ça m'aide, moi ? Et en fait, rien dans toute la Bible ne m'aide de plus. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ça veut dire la même chose que le Père aime le Fils. Et je vous dis, et ce que je dis, la phrase qui va suivre, c'est la phrase répétée, c'est un vrai témoignage personnel. Dieu m'a amené à ça au long des décennies, et spécialement ces derniers 15-20 ans, à réaliser que le Père aime le Fils, c'est l'origine de tout, le centre de tout, le cœur de tout, le sommet de tout, et que son amour envers moi n'est qu'une ouverture généreuse de cet amour-là. Hein, Jésus termine sa prière dans Jean 17 comme ça, « Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Simplement, l'amour de Dieu envers nous n'est pas sur le même plan que l'amour envers son Fils. L'amour du Père au Fils, qui a pour nœud l'Esprit Saint, parce qu'il est l'Esprit du Père et du Fils. L'amour du Père vers le Fils, c'est un amour intradivin. L'amour de Dieu envers nous, c'est un amour du Père, Créateur, vers sa créature. Et nous ne deviendrons jamais Christ, donc le Fils unique, ni divin, contrairement à ce que certains aiment avancer. Alors, en quoi est-ce que ça m'aide ? Eh bien, je vais le dire avec mes mots, c'est maladroit, mais si Dieu ne m'aimait que comme créature, imaginons un instant que son amour envers son Fils soit un domaine réservé et étanche, complètement fermé, avec zéro ouverture pour les créatures. Et Dieu nous aurait créés, il nous aimerait. Il aurait tout donné, comme dans le jardin d'Éden, tout, très bien, tout. Et même il aurait pourvu à notre salut, mais un amour direct de Dieu vers la créature. Et puis on saurait ou on ignorerait qu'il existe l'amour céleste, éternel, parfait, plein. On l'ignorerait. On serait, si on l'ignore, on serait très content de notre sort, créature aimée. Mais c'est un peu la situation d'Adam et Ève dans le jardin. Depuis ma conversion, je m'interroge sur pourquoi le Fils, qui est le but de tout, tout a été créé par lui et pour lui. Et le but du Père, il aime son Fils. Pourquoi le Fils n'est pas mentionné dans Genèse 1 et 2 ? C'est le but de tout, c'est le sens de tout, silence. Imaginons que Adam et Ève, que ça, il n'y a pas la rupture, qu'on appelle la chute, mais en fait c'est une rupture. Il n'y a pas. Et ils sont là, ils sont heureux, tout très bien. Ils n'ont aucune idée de l'amour complet, total, parfait. Ils sont comblés. Mais comme les oiseaux sont heureux, Jésus dit, votre Père céleste les nourrit. Et ce que nous sommes en train de lire là, ça nous dit, il y a un amour qui est sur un plan nettement au-dessus de celui qui est vers vous, mais c'est le même. Sur un autre plan, une autre ampleur, sans aucun doute, je ne sais pas, mais, et c'est pour ça qu'il est juste de dire que la plus haute promotion pour une créature, c'est l'adoption, d'être adopté en Christ, et que lui n'ait pas honte de nous appeler frères. Et là, Jésus dit, alors peut-être, ça fait combien là ? C'est bientôt fini. C'est dommage, hein? Personne ne connaît le Fils dans le qui est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ça dit quoi? Sans les mots, ça dit, il y a là un lien unique. Ça dit, le Fils est infiniment plus que je ne le conçois. Même Jésus dit qu'Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait son jour. Jean-Baptiste a reconnu le Fils, le Christ. Et Jésus vient et dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ça dit qu'il y a une mesure. Et ça dit que je ne suis pas le centre. L'amour de Dieu envers ses élus, on a tendance à le concevoir comme le sommet de l'amour. Pourquoi on fait ça? Alors, parce qu'on est égocentré naturellement, mais aussi parce que la Bible parle massivement de l'amour de Dieu pour les humains en général, mais spécifiquement pour ceux qui sont dans l'Alliance. Voilà, dans l'Alliance. Évidemment, elle est écrite pour des humains, la Bible, et spécifiquement pour ceux que Dieu accueille dans son alliance. Donc, en volume, en nombre de versets, de chapitres, de pages, elle parle beaucoup plus de l'amour de Dieu envers les humains que de l'amour de Dieu envers le Fils unique. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'elle en parle peu. Elle en parle plus qu'on ne le pense. C'est un peu partout. C'est un peu partout. Et donc, on s'imagine le sommet de l'amour, au sujet de l'amour, c'est l'amour de Dieu envers nous, envers l'Église. Cet amour est immense, insondable, largeur, longueur, hauteur, profondeur, mais ce n'est pas le sommet. Ce n'est ni le début, ni la dimension ultime. Le sommet de l'amour de Dieu, c'est l'amour pour son Fils. Et là, moi, je suis à ma place. Sous cet amour. Du moment que je suis décentré, que je ne suis plus le but ultime de Dieu et le centre de tout, je suis à ma place. Et là, il y a du repos. Là, il y a du repos. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus, je vais finir, hein. Rassurez-vous. Personne non plus ne connaît le Père. Ça, on le comprend un peu mieux peut-être. Mais si ce n'est le Fils, donc ça dit la même chose en réciproque, le lien Père-Fils avec l'Esprit qui leur est commun, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, ça me dit quoi? Ça me dit que si je suis devenu chrétien, certes, c'est parce que j'ai écouté. C'est parce que je me suis pas entêté à me fermer. C'est parce que j'ai, d'une manière ou d'une autre, accepté de lâcher mon indépendance ou quelque chose comme ça. On va dire c'est parce que oui, je me suis repenti. Parce que voilà, oui. Mais ici, Jésus ne dit pas, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui qui aspire à cette révélation, celui qui est comme un cœur d'enfant, qui vient et qui s'humilie, voilà, ce que la Bible dit ailleurs. Donc il faut pas l'effacer ça. Mais ici, ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça veut dire que, et je reprends l'expression que j'ai employée plusieurs fois, en amont de ma bonne volonté quand j'ai entendu l'Évangile, qui fait que j'ai cru, en amont de ma volonté, il y avait la sienne. Et si tu es là pour lui et son enfant, son disciple, c'est en partie parce que tu l'as voulu et que tu le veux encore et tu le veux beaucoup et tu fais bien de le vouloir. Mais c'est premièrement parce que lui l'a voulu. Et si c'est lui qui l'a voulu, il y a repos, il y a sécurité. Et la Bible appelle ça l'élection, la prédestination. Il l'a voulu avant que je ne le veuille. Et il vaut mieux, parce que c'est lui Dieu, et c'est pas moi. Où sommes-nous si c'est la volonté de la créature qui est première et celle de Dieu serait seconde, juste pour valider à quel point la créature a été bien. Merci notre Père de nous avoir adoptés. Et en plus, tu as fait écrire ce verbe toujours avec un pluriel. C'est une adoption collective. Nous sommes adoptés au même titre, au même rang. Il n'y en a pas un qui est plus adopté et l'autre moins. Merci de nous avoir adoptés en ton Fils, celui qui est ton trésor éternel. Merci. Et merci de ainsi nous sécuriser, nous donner un vrai repos. Et en même temps de nous former, de nous enseigner.